La science liturgique contemporaine a montré par l'analyse la parfaite transposition des usages pontificaux romains au rite presbytéral, du moins pour la période la plus primitive du Haut Moyen-Âge. Telle est d'ailleurs la description que Dantiro, de l'ordre bénédictin, nous livre de la coutume conventuelle de l'abbaye de Cluny au XIe siècle. Le célébrant se lave les mains avant de procéder à l'offrande des dons. Il importe néanmoins de considérer davantage, au sein d'une période médiévale aussi longue, la complexité des usages religieux en place et les remaniements internes auxquels ils ont donné lieu pour parfaire une expression liturgique toujours plus transcendantale. Sur cette longue plage de temps se découvre et s'élabore une théologie d'ordre notamment trinitaire. Elle connaîtra une avancée spectaculaire qui se répercutera inévitablement dans la gestation en cours de l'action sacrée. Observons déjà que 100 ans séparent approximativement l'influence de l'abbaye de Cluny de celle qui s'est diffusée à partir de l'abbaye de Citeaux. Or, dans la conventualité cistercienne, le célébrant procède à l'ablution de ses doigts pendant que le diacre termine le rite de l'encensement. La donnée est intéressante en ce qu'elle diverge de la coutume clunisienne. À Cluny, en effet, l'encens était d'usage et il était imposé par l'abbé sur les dons portés à l'autel. Or, le célébrant se lavait les mains dès la réception des dons, avant l'expansion des parfums. La comparaison paraîtra sans doute d'importance secondaire. Elle est cependant la source même du déplacement liturgique de l'ablution sacerdotale au sein de l'offertoire. Car au XIIIe siècle, la plupart des liturgies romano-franques déplaceront rituellement le lavement des mains après l'encensement. Seule la coutume cartusienne et les rubriques pontificales, tout en adoptant cette nouvelle conception, maintiendront la première ablution à sa place primitive. L'introduction de l'encensement dans le rituel de l'offertoire a donné prétexte à une explication peu valable pour ce second lavement des mains sacerdotales. Le célébrant éliminait ainsi les souillures possibles avant l'accomplissement des saints mystères. Et certaines fables ont la vie dure et deviennent blâmables parce qu'elles détruisent dans l'âme du clergé et des fidèles une saine intelligence de l'union sacrée. N'a-t-on pas écrit à propos des dispositions de l'Ordo Romanus Primus que pour maintenir intacte leur propreté, le pontife célébrant se lavait les mains après avoir recueilli les offrandes des hautes personnalités de Rome? Les meilleurs liturgistes, dont Pierre Lebrun au XVIIIe siècle, Jungmann au cours du XXe et de nos jours M. l'abbé Joly et Dantiro, évoquent aussi cette explication tout en l'enrobant de propos mieux venus et plus sérieux sur l'exact caractère de l'ablution sacerdotale. Mais la nature ne peut se substituer à la surnature et le souci des âmes est ici prioritaire. Une réflexion précédente avait rapporté un texte des Constitutions apostoliques où il était écrit que l'apport d'eau pour l'ablution des mains sacerdotales symbolisait, entre guillemets, la pureté des âmes consacrées à Dieu à la hauteur de la fin du IVe siècle. À la même époque, Saint Cyrille de Jérusalem avait insisté nous n'entrons pas les mains sales dans l'Église. Et Denis, auteur de la hiérarchie ecclésiastique, ajoutait « Cette ablution ne se fait pas pour effacer les souillures du corps. Elles ont déjà été lavées, mais pour marquer que l'âme doit se purifier des moindres tâches. » La pensée religieuse romane ne pouvait qu'adopter cette perspective sacrale. Et si la direction qu'elle poursuivait s'est obscurcie pour notre chrétienté contemporaine, sans doute par manque de profondeur spirituelle, une saine intelligence des rites peut aussi nous être rendue avec l'esprit d'une plus grande verticalité dans l'analyse. La restauration de l'esprit qui gouverne l'ablution des mains sacerdotales n'implique pas seulement un rituel expressif avant l'offrande et des prières significatives capables de l'illustrer, elle doit ouvrir sur une perspective bien plus vaste où la pensée religieuse conserve en permanence la conscience de l'humilité humaine devant son état pécamineux face à la grandeur infinie de la miséricorde divine qui rachète. La religion romane va donc placer très haut la barre du perfectionnement spirituel et elle sera très exigeante à l'égard des clercs qui administrent les sacrements au bénéfice du peuple de Dieu. Ces derniers qui sont appelés par leur fonction à entourer l'autel du sacrifice rédempteur n'approcheront pas du Saint des Saints sans être pénétrés du cheminement nécessaire que leur âme doit accomplir. D'où l'idée d'une série d'étapes spirituelles qui impliquent pour les ministres de l'autel une ablution de leurs mains. C'est en ce sens que doivent être comprises en premier lieu toutes les formes d'ablution d'usage à la sacristie. Le premier cercle concentrique qu'évoque Jungmann pour entourer de sacralité les saints mystères. La préparation des oblats imposait le préalable d'une ablution des mains. De même, la vêture, dans la conventualité cistercienne, célébrant et ministre procédait à ce rite avant de revêtir leurs ornements sacrés. Observons à cet égard qu'au cours de l'action sacrée, le préalable du lavement des mains ne s'impose pas seulement aux célébrants. C'est un rite étendu aux ministres dans la mesure où leur fonction a quelques incidences sur le déroulement des mystères. Ainsi, le diacre, au service de l'autel, procède au lavement de ses mains avant d'étendre le corporal que le sous-diacre avait simplement posé sur le calice et la patène en préparation des cérémonies de l'offertoire. Antérieurement, le sous-diacre lui-même s'était lavé les mains avant de remettre le calice au diacre. Le haut Moyen-Âge a même prévu un autre cycle d'ablution après l'offrande en préparation de la prière eucharistique, avant que le célébrant ne s'engage dans la prière Teigitur, qui prélude au canon de la messe, trois acolytes présentaient l'eau au diacre. Le premier de ceux-ci était en effet associé à la future élévation du calice. Les deux autres participaient au rite de la fraction. Subsiste également cette particularité dans la liturgie ambrosienne, avant d'aborder les prières consécratoires, qui prédiait quam pateritur. Le célébrant procède à une dernière ablution de ses mains. C'est véritablement une signification restituée. C'est très exactement l'ensemble rituel dans lequel se place l'ablution sacerdotale imposée par une offrande dont la religion romane entendait souligner l'importance au sein de l'action sacrée. Liturgiquement, l'idée maîtresse de la purification des âmes exclut toute allusion à la propreté des mains ministérielles, de même qu'il est vain d'affirmer que la pluralité des cierges dans les sombres absides romanes avait pour fin de permettre aux célébrants d'y voir plus clair. Tout au contraire, apparaît l'évidence que l'offrande des oblats a revêtu dans la conception médiévale une place majeure introductrice au saint mystère. Le révérend père Cassian Folsom, bénédictin, précisait que dans la liturgie cistercienne, le célébrant devançait dès l'ablution le geste, aujourd'hui d'usage à partir de la consécration, de joindre définitivement ses doigts lavés. Les dérives actuelles trouvent leur source dans le fait que les liturgistes contemporains ont référé l'explication de l'ablution sacerdotale de l'offertoire à une ritualité antécédente, alors que l'idée de purification des âmes, incluse dans le lavement des mains, était le préalable obligé de l'offrande à Dieu. Suscipe sancte pater et suscipe sancta trinitas dans le rite pontifical, plus complexe et plus développé. Suscipe sancta trinitas uniquement dans la liturgie presbytérale, dont le caractère est plus réducteur.